On arrive à troisième rencontre et encore une fois on est vraiment content d'être avec vous. C'est vraiment un plaisir pour nous de prendre ce temps avec vous. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que on voit qu'on est aussi une communauté multiculturelle. Et ça, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. C'est là où on voit vraiment la beauté de l'œuvre de Christ. Et on va le voir un petit peu tout à l'heure. Ce corps uni où de différentes nationalités, de différentes origines. On se retrouve tous ensemble dans une même passion, une même joie, un même amour, même affection mutuelle. Et ça, c'est vraiment l'œuvre que Christ a voulu faire. Et donc, ça nous permet de nous rappeler un peu. Donc, premier enseignement qu'on a eu. On a toutes et tous un appel, une mission. Et le premier appel, première mission, c'est quoi ? Glorifier Dieu. Premier appel. Et qui se décline de deux façons. Et aimer son prochain. Exactement. Et à quel endroit? Où c'est qu'on doit appliquer ça? Partout. Que ce soit au travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le temps libre. Donc il y a cette première appel. Et frères et sœurs, on est tous appelés, toutes et tous appelés à aimer Dieu, aimer son prochain. Et c'est parce qu'on est appelé à glorifier son nom. Et on a vu, et c'est important que pour vivre cela, le comment, c'est déjà qu'on soit des hommes et des femmes qui avons reçu nous-mêmes la grâce de Dieu. On a su ce que ça veut dire être pardonné, on a su ce que ça veut dire être aimé, on a su ce que ça veut dire quelqu'un qui donne sa vie pour nous. Et parce que j'ai reçu ça, alors je peux donner, je peux aimer, je peux pardonner, je peux être bon parce que moi-même j'ai été au bénéfice de cette grâce. Et j'aimerais réfléchir diverses choses avec vous aujourd'hui, cet après-midi. C'est déjà que vous encourager à prendre le temps de savoir où vous allez et pourquoi vous faites les choses. Tout à l'heure, je vous ai dit que même vos études, vous devez les faire dans la perspective de glorifier Dieu. Et quand on glorifie Dieu dans ses études, donc on l'a vu, on a dit on peut aider les autres. Mais derrière, on a vraiment cette perspective de dire « Seigneur, c'est pour toi que j'offre ces études. » Et ça, c'est quelque chose, c'est une façon de penser la vie qui doit changer, en fait. Parce que en général, on est tous encouragés à faire des études pour avoir une carrière, ou pour avoir des notes, parfois même, c'est avoir une bonne note. Notre objectif de faire des études, c'est avoir des bonnes notes. Et donc, on limite notre perspective dans cet objectif-là. Mais le Seigneur veut qu'on prenne du recul. Comme on l'a vu, tout ce que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez des études, que vous prépariez votre devoir de maths, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le comme pour le Seigneur. Et on a lu aussi, même au travail, quand on a des patrons difficiles, que même notre rapport au patron, qu'on puisse glorifier Dieu. Donc ça, c'est vraiment un changement de façon de voir la vie, changement de façon de voir les choses qui doit être opéré en nous. Et je sais que c'est pas en un week-end qu'on va tout changer, mais j'espère que ce week-end va vous aider à avoir cette perspective de dire tout ce que je fais dorénavant, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Et le comment, on l'a vu, c'est à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit, à travers le renoncement en soi, être prêt à obéir à Dieu, à travers le modèle de Christ. Et ces choses-là sont particulièrement vécues dans un environnement. Et j'aimerais juste cet après-midi parler de deux choses. La première, c'est le cadre qui nous encourage à grandir dans cette dynamique. Qu'est-ce qui fait que le chrétien est propulsé de l'avant dans son souci d'honorer Dieu, de glorifier Dieu? Et le deuxième, c'est que vous puissiez, qu'on puisse réfléchir, on va se mettre très concrètement, réfléchir à qu'est-ce qui nous empêche de se mettre de l'avant. Donc qu'est-ce qui nous pousse? Et en particulier, on va lire ensemble, beaucoup l'ont mentionné. Donc déjà, on va commencer avec Éphésiens chapitre 4, pour rebondir sur le chant qu'on vient de chanter. Éphésiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 11 et 16. On parlait de chaîne d'amour et en fonction des versions, parfois le terme chaîne est utilisé dans ce texte-là. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ce texte? Voilà. Donc on a une vision, chacun individuellement, glorifier Dieu. Voilà, ça c'est mon appel, je veux glorifier Dieu. Il se décline en deux façons très concrètes, aimer Dieu de tout mon cœur, toute ma pensée, tout mon être, et ça on a décliné concrètement ce que ça voulait dire, et aussi aimer mon prochain quand même. Et c'est pas des options, c'est pas des choses que je fais parfois, c'est mon objectif de vie. Je reprends encore l'image de ces deux vendeurs, on y en a allé, on lui a dit, ton objectif c'est accueillir. Et il y va à fond. Parfois il vend, mais c'est surtout accueillir. L'autre c'était, ton objectif c'est vendre, et il y va à fond. Le chrétien, ton objectif c'est aimer Dieu, et aimer ton prochain, associé. Et c'est ce à quoi on donne notre vie, encore une fois. Et très concrètement, on l'a vu, ça se pose, ça se réfléchit, c'est un défi, c'est un enjeu. Et donc, on y va dans cette perspective-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, tout chrétien a cet objectif, donc les chrétiens ont cet objectif. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'on soit ce corps qui s'unit, qui s'encourage. Comme je vous ai dit, ce n'est pas à votre travail qu'on va vous rappeler cet objectif d'être patient avec les autres, d'être bon avec les autres, de vous donner aux autres. Par contre, c'est à sa mort, pour ceux qui sont dans l'église de sa mort. C'est à l'ANI pour notre église. C'est dans le corps de Christ où on va communiquer ces valeurs cruciales, importantes que Christ donne. Et aucun chrétien ne peut se dire « je suis assez fort pour avancer tout seul » et ne pas voir les autres chrétiens, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de l'Église pour me rappeler quelle est ma mission. Nous sommes des auditeurs oublieux, comme dirait un certain passage, auditeurs oublieux. Parfois on entend, mais parfois on oublie. Et c'était Clément tout à l'heure qui donnait, hier, qui donnait des pourcentages qu'on arrive à retenir, c'est ça? 20%? 10 à 20% quand on entend? 5%, c'est pas encourageant pour les prédicateurs, ça. Alors quand tu vas prêcher, sache qu'on va pas, on va oublier 95% de ce que t'as dit. Par contre, plus quand on note, et donc juste pour information, quand on discute en groupe aussi, on retient plus, puisqu'on a travaillé le sujet, on n'est pas juste là quelqu'un qui nous a dit, mais on a travaillé le sujet. C'est pour ça que j'aime bien faire des petits groupes aussi. Comme ça, on retient un peu plus. Mais quand on enseigne à d'autres, et ça, le Seigneur a mis en place, met en place dans son Église, on l'a vu ici dans Éphésiens chapitre 11, c'est lui qui a établi, hein, c'est Jésus qui a établi des personnes dans son Église pour être des bons superviseurs. Donc en fonction du superviseur qu'on a, donc que les vendeurs ont, ils ont choisi une direction. Mais c'est un peu aussi la même chose dans l'Église. En fonction des enseignants, les enseignements que vous allez avoir, ça va vous donner une certaine direction. C'est pour ça que c'est bon de chercher des églises où la parole de Dieu est prêchée régulièrement, fidèlement, où Christ est prêché régulièrement et fidèlement. Et merci Seigneur, c'est le cas à Saint-Maur, puisque j'y prêche. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'y vais pas assez souvent. C'est une petite blague. Mais c'est quand même le cas. C'est pas la blague, c'est le cas, ça c'est pas une blague. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Verset 11, regardez. Évangélistes, bergers, enseignants. Et ils expliquent pourquoi. Ils expliquent pourquoi est-ce que Jésus a fait ça. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Notre société occidentale est très individualiste. On fixe énormément l'accent sur votre vie individuel et personnel. C'est qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Quel métier tu as? Il fut un temps, quelques décennies auparavant en France, et encore aujourd'hui dans certaines cultures, où finalement on est moins individualiste parce qu'on se soucie soit de notre famille, ou même de notre village, c'est très important, voire de notre ville. Donc il y a cette notion d'appartenance à un corps. Donc, je fais partie de la famille tant. Et ça, c'est très fort dans certaines cultures. Et c'était très fort aussi en France, jadis. Et avant, on était menuisier de père en fils. Mon père est menuisier, son grand-père était menuisier, son arrière-grand-père, c'est normal, c'est notre. Et donc il y avait pas cette notion encore de tiens, tu peux choisir ton avenir, tu peux choisir ta direction, tu peux changer, tu peux casser cette lignée. C'est récent. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que on n'est pas des individus tout seuls, on est membre d'un corps. C'est d'autant plus important aujourd'hui de se le rappeler. Vous êtes membre d'un corps et aujourd'hui vous avez choisi, pour la majorité d'entre vous, le corps de Saint-Maur. Nous sommes membres d'un corps et quand Paul parle, très souvent il l'écrit à des églises. Il dit souvent « vous », il dit rarement « tu ». Et donc, vous êtes appelés en tant que corps à faire la mission qu'on a donnée. Et finalement, glorifier Dieu et glorifier son prochain, c'est vrai pour l'individu, mais c'est aussi vrai pour le corps. Et là, vous allez vous encourager, un peu comme une équipe de foot qui a un objectif. Tu prends chaque individu, il va te dire « Ouais, j'ai envie qu'on gagne, mais ensemble, on va gagner. » Une équipe qui vise un même objectif, et ensemble, on veut poursuivre cet objectif. Et la perspective, c'est qu'il y a l'enseignement. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'on l'a vu, ça insuffle votre marche avec Jésus, ça insuffle la bonne direction, ça insuffle les bons objectifs. Et ça, c'est ce que Jésus a décidé. C'est lui qui a établi les choses comme ça. On pourrait dire, non, moi, j'ai pas trop besoin de l'enseignement des autres. Bah, si, parce que ça a été établi de cette façon-là. Et les cinq ministères qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle les ministères 4 ou 5 en fonction des commentateurs, mais c'est les ministères de la parole, où la parole doit être au fondement de votre croissance en tant qu'Église et en tant que corps. Apôtre, prophète, évangéliste, berger, enseignant. Mais une fois qu'on a ça, chacun se met à son service. Verset 13, « Formez tous les saints » J'ai vraiment qu'à rajouter tout, mais c'est former chaque chrétien aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une unité, une connaissance de Dieu, une maturité pour chacun d'entre vous. Donc si vous voulez grandir spirituellement, là encore, l'importance d'écouter et d'entendre la parole de Dieu, soit votre lecture personnelle, soit l'enseignement de ceux qui prêchent, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors moi, hier, je crois que c'était Sabrina qui t'avait dit « Mon objectif, c'est de ressembler à Jésus, c'est ça ?» Eh bien, on voit que si tu veux ressembler à Jésus, c'est un très bon objectif, c'est vraiment la perspective que Dieu a pour nous, mais ça passe par le rôle de l'Église dans ta vie. Parce que l'objectif, c'est ressembler à Christ, les moyens que Dieu a mis, c'est la parole enseignée et proclamée. Verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine à la ruse des hommes, leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour. » C'était David qui avait réagi en disant on peut se dire la vérité, tu es nul. Heureusement qu'ils disent en disant la vérité dans l'amour, David, s'il te plaît. Mais disant la vérité dans l'amour, parfois on peut avoir toujours une extrême, hein, dire la vérité sans prendre aucun tact, et de l'autre côté ne pas dire parce qu'on a peur de ce que l'autre va penser. Là, il dit dire la vérité dans l'amour, et c'est comme ça qu'on va grandir vers celui qui est le Christ. Et l'image qu'il donne, c'est pour ça que ce chant « chaîne d'amour » rejoint un peu cette image de la parole de Dieu au verset 16. C'est un corps bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations. Et certaines versions, on garde au maillon de la chaîne, un petit peu, certaines versions auront celle-là, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc chacun d'entre vous, vous avez un rôle. Et c'est dans 1 Corinthiens 12 que cela est développé. Donc on a un objectif commun, la gloire de Dieu. On veut grandir dans ces deux axes, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pour cela, Jésus a établi un corps qui va le permettre. Fondé sur la parole de Dieu, fondé sur l'enseignement, mais chacun a son rôle. Et on va regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va commencer au verset 12. Je vais lire lentement, mais je vais aller jusqu'au verset 26. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, malgaches ou chinois, esclaves ou libres, consultants ou informaticiens, nous avons tous été baptisés dans un seul corps pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Ce texte est très fort pour tout type de personnes. D'un côté, il dit... On est un corps, et chacun, vous avez un rôle. Et d'un côté, c'est le pied ne peut pas dire « tu n'as pas besoin de moi », et de l'autre, la main ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». Et c'est assez encourageant parce que parfois, dans l'Église, on peut avoir des gens qui se disent « ah, moi, je ne sais pas prêcher ». Moi, c'est pas. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de moi, quoi. Ah, lui au moins il s'est prêché, il s'est parlé en public, il est important. Et ça c'est exactement ce que la parole de Dieu est en train de traiter. Ah, moi quand je prie à chaque fois, c'est pas comme telle personne qui sait vraiment bien prier. Il est en train de traiter, il est en train de dire, mais si tu es en Jésus, si tu t'es approché de Jésus et que tu as reçu son pardon, alors tu as aussi reçu l'Esprit de Jésus. Et si tu as reçu l'Esprit de Jésus... Alors Dieu t'a équipé pour que tu puisses servir le corps et servir ton Seigneur. Il n'y a personne dans l'Église qui n'a rien à apporter à l'Église. Et ça, c'est établi comme ça. C'est le Seigneur qui a permis cela. Verset 7 de 1 Corinthiens, chapitre 12. « Or, à chacun, donc chaque chrétien, la manifestation de l'Esprit est donné pour le bien de tous, le bien commun. Le plus important n'est pas l'ampleur de ton don, mais l'état d'esprit dans lequel tu viens. Et c'est pour ça qu'on a commencé à poser le fondement profond de la vie chrétienne, c'est la gloire de Dieu et l'amour des autres. Et une fois que tu as ça, une fois que tu sais que ta vie est appelée à aimer Dieu et aimer ton prochain, alors tu pourras bien utiliser ton don. Quel qu'il soit. Parce que ton objectif ne sera pas de dire « je veux me faire reconnaître », par exemple, ou « je veux que les autres me valident », mais « je veux les aimer, je veux les servir, je veux que Dieu soit glorifié ». Et on envisage tous les dons comme ça. Si je prends la parole pour prêcher, c'est dans la perspective d'aimer. Si je prends la guitare pour chanter, c'est dans la perspective d'aimer. Si je... On parlait des toilettes, c'est ça qui est le ministère le moins soutenu, le plus gratifiant, dans la perspective d'aimer. La perspective doit être la motivation de l'amour. Et on l'a vu, ça commence par ce contact que tu as avec Jésus-Christ. Et c'est là que tu te mets au service. Mais ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que non seulement il encourage ceux qui se disent « moi, j'ai pas beaucoup de dons, moi, je sais même pas si j'ai des dons, je sais même pas si je sers à quelque chose, quand je suis pas là, personne ne remarque. » Il encourage ces gens-là à dire « attends, Dieu le sait, tu as quelque chose à apporter. » Il encourage aussi les autres qui disent « alors si moi, j'étais pas là, alors l'Église... » Il encourage les autres avec un peu plus d'humilité. « Tu as besoin des autres. » N'oublie pas, tu peux pas tout faire. Heureusement que le corps n'est pas que mains partout, que des mains ou que des pieds, ce serait pas très beau. Tu as besoin, tu es peut-être une main, c'est peut-être utile, tu sais prendre les choses, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça. L'Église a besoin d'autres personnes différentes de toi. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous, de nous rappeler, surtout quand on a un ministère exposé, important, qu'on a absolument, absolument, nous-mêmes, individuellement, besoin des autres. On a besoin de leur service, on a besoin de leur bénédiction. Et quel que soit notre âge spirituel, qu'on soit là depuis des années ou qu'on vienne de commencer la foi chrétienne, si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Mais l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». On a tous besoin les uns des autres. Et c'est pour ça que l'Église existe. Parce que la croissance, votre croissance, d'après ces textes, dépend aussi de votre contact avec les autres frères et sœurs. Et ça, c'est vrai que c'est dans notre société individuelle. Ah, mais alors ça, c'est comment ça, moins dépendre des autres? Ah, ben non, jamais. Au contraire, on veut être dans une dynamique de autosuffisance. Je sais où je vais, j'ai mes ressources, je suis clair dans mes objectifs et j'ai pas besoin des autres. À la limite, que les autres ont besoin de moi, ça me va. Mais que, eh bien non. Le Seigneur n'a pas permis cela comme ça. Parce qu'on est le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est la composition de tout, chacun d'entre vous. Quel qu'il soit, le prédicateur, aussi bien que celui qui s'occupe du service, que celui qui prie, que celui qui fait la louange, et que tous les autres. Et donc, où est-ce que vous vous positionnez? Alors parfois, on varie, mais est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire « moi, je pense pas vraiment qu'on ait besoin de moi ». Je vois pas vraiment mon don, je sais pas pourquoi Dieu m'utiliserait. Dieu t'encourage et te dit tu as vraiment un don si tu appartiens à Jésus-Christ. Et il veut vraiment t'utiliser pour le bien des autres. Si tu as décidé, comme on l'a vu, d'aimer l'autre, alors Dieu veut t'utiliser absolument pour faire du bien aux autres. Parce que c'est la puissance de son esprit qui va se manifester. Si tu es plutôt du genre, oh là là, je fais énormément de choses, si je pars, l'Église s'écroule. Alors le Seigneur t'encourage à... Peut-être que tu devrais laisser la place à certains ou former certains et certaines. N'oublie pas que toi aussi, tu as besoin d'être édifié par les autres, encouragé par les autres. Et c'est un corps en action. Et moi encore, je bénis le Seigneur de ce corps en action qui est... Il est vrai, en fait, il y a deux niveaux. Il y a un niveau local et un niveau global. Donc, le niveau local, c'est l'église de Saint-Maur, l'église de Lagny, voilà. Et après, il y a un niveau global qui est vraiment l'église dans son ensemble où on sent qu'on est unis toutes et tous dans la même direction. Et je pense que ceux qui ont voyagé, vous l'avez vécu cet été, voir qu'en fait, on se réunit et on sait qu'on est dans la même direction. On sait qu'on recherche la même chose. On sait qu'on a le même objectif. Et ça, c'est vraiment encourageant. J'aimerais, donc, ça c'était l'objectif, vous rappeler que vous êtes un corps, ce que vous devez vivre en commun, ce que vous devez vivre individuellement, vous devez le vivre en commun, l'appel que vous avez reçu individuellement est l'appel de Saint-Maur. Vous avez reçu quelque chose pour grandir avec l'église de Saint-Maur, pour ceux qui sont à Saint-Maur, et dans votre église locale pour ceux qui sont autre part, mais vous avez cet appel commun. Et tout doit être, tout dans votre corps doit poursuivre cet objectif. Et j'aimerais m'arrêter sur, en deuxième partie, sur autant je viens de parler des alliés pour votre marche chrétienne. Vos frères et sœurs sont des alliés pour votre marche chrétienne. Et vous êtes un allié pour eux. Autant j'aimerais aussi que vous puissiez réfléchir à vos ennemis de votre marche chrétienne. Alors c'est pas forcément des personnes. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aimer les autres? De vous lancer à 100% pour Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de vous donner à votre frère, à votre sœur? J'aimerais partager avec vous un texte, une histoire en Galates chapitre 2. C'est une histoire que Paul raconte avec un certain Pierre. Galates chapitre 2, les versets 11 à 14. Alors, Paul est en train de raconter que... Il fait trop chaud, paraît-il. Pierre est en train de raconter, Paul est en train de raconter que voilà, pour lui, l'évangile, c'est crucial. On n'a plus à se faire circoncire pour accéder à l'approbation de Dieu. La seule chose qui suffit, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est plus respecter la loi de Moïse, mais c'est véritablement venir à Jésus et recevoir son salut. Et il donne un exemple de quelqu'un qui, à un moment, qui avait un bon début, Pierre, à un moment, a eu une attitude un peu différente, et voilà comment il traite ce point. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Pourquoi? Waouh! En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, donc, Jacques, qui est entouré d'hommes qui honorent la loi juive et qui sont juifs, il mangeait avec les non-juifs. Donc, chose que les juifs n'aimaient pas faire. Ils disaient, mais pour rester saint, il ne faut pas se mélanger avec les non-juifs. Et Pierre, il dit, mais l'évangile, donc il mange avec eux. Il dit, ouais, mais non, il n'y a pas de souci, je peux manger avec les malgaches, il n'y a pas de souci. Je peux manger avec les autres, quelle que soit leur nationalité, leur origine, je peux manger avec eux parce que Jésus-Christ a pardonné, Jésus-Christ a libéré, Jésus-Christ a payé, on est tous unis. Mais la suite, c'est quoi? Verset 12, la deuxième partie. Mais après leur arrivée, donc l'arrivée de ces hommes qui ont le souci de la loi, qui ont le souci qu'on respecte l'autorité de la loi et qu'ils communiquent, après leur arrivée, ils s'étaient esquivés. Il s'est esquivé. Ah, comment il s'est esquivé, hein? Il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart. Et la clé, qu'est-ce qui a poussé Pierre à se tenir à l'écart? Est-ce que vous voyez pourquoi ou pas? Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire pourquoi Pierre, qui était convaincu que l'évangile est bon, qui est convaincu que maintenant il n'y a pas de souci, on peut manger avec les non-juifs, il est convaincu. Il a défendu dans Acte 15, il a défendu dans bien des domaines où il dit, et il a vu Corneille, il a vu le Seigneur bénir les autres, il est rentré chez un non-juif. Donc il le sait au plus profond de ses tripes. Mais il s'est passé quelque chose chez Pierre à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la suite du verset 12? Il s'est tenu à l'écart, pourquoi? Par crainte des juifs, des circoncis. La crainte de l'autre, la crainte de l'homme. La crainte est un de nos premiers ennemis. La crainte du regard des autres. C'est une des choses qui va vous obliger à ne pas obéir. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si tu fais ça? Ouais, mais maintenant, si tu... fais ça comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? La crainte, les amis, la peur, c'est une des choses qui va nous bloquer dans notre élan avec Dieu. Parce que j'ai eu peur. Vous vous rappelez l'histoire des trois serviteurs, et il y a les deux bons serviteurs qui font fructifier les talents, et il y a le troisième qui enterre, qui cache, et quand le maître revient, il dit « j'ai fait ça par peur, par crainte ». Et j'aimerais qu'on puisse partager globalement ensemble comment est-ce que la crainte nous empêche d'agir? Pourquoi est-ce que la crainte nous empêche d'agir? Est-ce que vous avez des exemples où la crainte peut être un blocage dans notre élan envers Dieu. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, quand on a parlé de ça, est-ce que vous dites oui, je pense effectivement, il y a ce genre de situation où ça peut faire peur et nous obliger à ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, je vous laisse un peu la parole. Comment est-ce que la crainte peut nous bloquer dans le service pour Dieu et dans le souci de poursuivre sa gloire? La crainte de quoi, par exemple? La crainte de mal faire. Intéressant. Vas-y, développe un peu. Ah oui. C'est ça. On se dit, si je fais, moi, je n'ai pas les compétences, et donc je vais mal faire, tout à fait. Ça, c'est un bon élément. Merci. Par exemple, vas-y. Ouais. Ah, c'est intéressant, effectivement. Qu'est-ce qui fait que je peux me lancer ou pas dans un service? Tout à fait. Alors après, est-ce que la crainte n'est pas est-ce que le Seigneur ne nous demande pas d'avancer avec foi, accompagné par les autres? Après, ça demande de la sagesse, effectivement. Mais c'est vrai que la crainte peut te bloquer. Peut te bloquer.
Tu peux être dans ce cas-là, mais sans la crainte. C'est-à-dire, parce que je te propose de faire ça, tu dis, non, mais c'est pas que j'ai peur de le faire, c'est juste que.
Après, t'as peut-être la crainte de répondre par rapport aux personnes.
Oui, il y a plein de...
C'est-à-dire. Vas-y.
Dans la crainte, par exemple. Non, je suis pas luthéran.
Ah oui, c'est ça. Au contraire, la crainte, tu y vas alors que, en fait, t'as peur de lui, quoi. Ouais. Par réflexion de c'est pas ton poste quoi, c'est pas ton appel. Ouais. Quoi d'autre comme crainte qui peuvent nous bloquer à honorer Dieu? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Oui, tout à fait. Alors ça c'est une des plus grosses craintes des chrétiens. Hein. Donc on a peur de quoi derrière? Du rejet. Crainte du rejet. Alors ça, c'est absolument une des choses qui va nous empêcher, nous bloquer dans beaucoup de choses pour Dieu. Si on s'affiche chrétien au travail, hein, ou aux études, c'est pas une crainte ça que les autres nous rejettent, nous étiquettent? Ah, mais lui, c'est le chrétien, lui, c'est le... Ça, c'est une des grosses craintes qu'on a. Le rejet des autres. Mais si je dis ça, que ça c'est mal, c'était pas bien en fait ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Mais j'ai peur que l'autre me rejette. J'ai peur qu'il dise mais pour qui tu te prends, oh tu me juges. Mais comme David nous le rappellera, il faut dire la vérité dans l'amour.
Non mais en fait je pense à un truc, moi je trouve que c'est facile. Enfin c'est plus que facile. Ah t'as fait quoi ce week-end? Moi je suis allé à l'église. Moi ils savent que je suis chrétien mais. Mais ça n'a pas de sens, enfin, tu vois, c'est même pas de l'évangélisation, en
fait, oui.
L'information.
Ouais. Comme tu dirais, je suis bouddhiste ou quoi, d'autre quoi.
Ouais, voilà. Et moi, je pensais de ce qu'elle dit, parfois, t'as envie d'aller plus loin, donc lui expliquer ce que tu
crois. Ouais.
Mais là, c'est un peu le côté malterne, dans le sens où le mec, justement, il va se bloquer, tu vois, et il va aller à contre-courant un peu, il va dire, attends, à partir de maintenant, comme je l'ai écouté, j'écouterai plus les autres chrétiens en quelque sorte.
Du style, il se braque, quoi. Voilà, il se braque. Moi, j'ai rencontré un chrétien.
C'est vraiment juste de dire déjà, oui, je suis chrétien, machin.
Ouais.
Et de l'encourager à réfléchir sur la vie, des trucs comme ça.
Ouais.
Jésus, etc.
Si déjà, tu pourrais un peu.
Il va. Mais c'est un qu'est-ce qu'il me parle de quoi, là?
Ouais.
Ça, en fait, dire que t'es chrétien, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est limite, t'aimes bien la gloire, t'aimes pas la gloire.
Ouais.
C'est vrai qu'ils ont une bonne image de ceux qui vont, qui se disent, ouais, il va à l'église, machin, ils ont une bonne image, mais t'as pas plus loin.
Ouais. C'est pour eux, en fait. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Mais déjà, il y a des gens, ils osent pas s'afficher chrétien.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que passer du cap de « je suis chrétien » à « et toi, qu'en penses-tu » c'est déjà un niveau au-dessus, effectivement. Effectivement. Et qu'est-ce qui va nous aider à ne pas avoir crainte des autres? Parce que finalement, c'est souvent, c'est la crainte de l'autre qui va nous bloquer. Ah, n'est-ce pas? On passe quelque chose au-dessus de notre crainte. Ouais, exactement. Notre crainte de Dieu. Une deuxième chose, notre amour de l'autre. Bon, imaginons, vous avez une maison en flammes qui commence là. Est-ce que vous irez pour aller chercher un bonnet? Ah, mon bonnet, mon bonnet! Mon bonnet! Mon bonnet. Est-ce que vous irez pour chercher un enfant? Vous direz... Est-ce que vous irez pour chercher votre meilleur ami qui est là et qui dit « Aide-moi, aide-moi » Qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Clément?
C'est pas
Ah oui. Quand on a conscience de ce que l'autre est en train de risquer. Et quand on voit sa valeur, on y va. N'est-ce pas? Quand on a conscience que notre collègue, il a besoin, on y va. Quand on a conscience que l'église de Saint-Maur veut grandir avec les uns et les autres, on y va. On se donne. Quand on sait que ça fait du bien. Quand on sait que ce qu'on va apporter va faire du bien. Alors pas que vous soyez exceptionnel, mais ce que Dieu vous a mis, c'est pour apporter. Et ça, c'est une prière qu'on peut toutes et tous faire. Seigneur, ouvre mes yeux pour comprendre et pour ne pas voir les choses comme les autres les voient, mais voir mon collègue comme perdu, voir l'Église comme ayant vraiment un appel d'être un corps ensemble, où si t'enlèves un maillon, il manque quelque chose. Venons et servons, mais demandons au Seigneur de nous enlever la crainte. Moi, je vois aussi la crainte des choses très basiques, de perdre son confort. Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis dans une église où il y a beaucoup de familles. Et le rapport à venir aux études est très différent, ou à servir est très différent. Oui, mais j'ai la crainte que, voilà, on perde un peu notre équilibre, ça ressemble un peu ça. Notre équilibre de vie, etc., etc. Donc, je préfère ne pas aller... à tel endroit, à telle étude, etc. Pas trop servir les autres. Pour la peur de perdre son équilibre. La peur de perdre son temps, son propre temps. Oui, mais c'est mon temps. C'est à moi un peu ça. Si je le perds, c'est ça, ça. C'est pour ça que le Seigneur le demande d'abord, aime l'autre et aime ton Dieu. Et parfois, ça a un prix, ça a un coût. Donc la crainte, c'est votre plus grand ennemi. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose que je vois, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est l'indifférence. Tu penses à quelque chose quand je dis ça?
Ouais, quand parfois tu partages l'évangile et que la personne est totalement indifférente.
Oui.
Il n'y a rien qui s'accroche, il y a même sur des valeurs. Vas-y. L'indifférence est là, ça fait tort.
Ouais. Mais finalement, moi, ce que je veux cibler, c'est l'indifférence du chrétien. Ça fait peur quand c'est un non-chrétien, parce qu'il se dit, il a rien. Mais quand c'est un chrétien, indifférent aux valeurs de l'Évangile, ou très peu différent, ou très peu touché par l'appel de Christ, ou très peu motivé à vivre pour Christ, ou parfois où on peut perdre cet intérêt. Paul dira à Timothée, mais ravive la flamme qui est en toi. Et on n'est pas, personne, aucun d'entre nous n'est exempt de perdre cette flamme. Et ça, c'est le deuxième axe que j'aimerais vous communiquer. La première, c'est la crainte. La deuxième, c'est l'indifférence que vous pouvez avoir de l'autre, des autres, des gens avec qui vous êtes, de l'Église, de la parole même, de Dieu, de perdre cette la magnificence de Christ. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps encore de prière pour renouveler notre amour pour l'autre et notre crainte de Dieu et notre passion pour Christ. Et j'aimerais que vous puissiez vous remettre en petits groupes. On va terminer encore comme ça. Et en petits groupes, on va s'entraider concrètement. Qu'est-ce qui vous aide à maintenir une passion pour Dieu et pour l'Église? Qu'est-ce qui vous encourage dans votre vie et à maintenir dans votre vie une passion, une joie pour Dieu et pour l'Église? Prenons quelques minutes là-dessus. On va se mettre peut-être par groupe de 4, 5 maximum, pour que les uns et les autres puissent partager. Donc n'hésitez pas à diviser si y en a trop. Qu'est-ce qui vous permet de maintenir et de développer votre passion pour Dieu et pour l'Église? Donc commencez par passion pour Dieu, passion pour l'Église. Et après, on prendra le temps. Je vous laisse quelques minutes là-dessus et puis après, on fera un petit compte-rendu et puis on terminera. Donc 4, 5 maximum. Alors, voilà. Partageons les uns et les autres. Qu'est-ce qui vous encourage à maintenir une passion pour Dieu, dire « Ouais, ça va m'aider à glorifier Dieu » et une passion pour l'Église. Ça m'aide ça à aimer les frères et sœurs, à m'engager pour eux, à me donner pour eux. Voilà. Alors j'espère que chacun a été encouragé. Juste, on va entendre peut-être un ou deux encouragements par groupe rapidement. Alors, on va aller avec le groupe du fond, Michael Lee et Samuel, Abraham. D'accord, très bien, très intéressant, merci. Ouais. Juste pour rebondir par rapport à ça, moi je me suis toujours posé la question au début, aime-t-on Dieu? C'est un peu ça, c'est est-ce que ça naît de moi, mais finalement aime quelqu'un, c'est mais non, mais je l'aime, hein, je me suis pas mis en mode je vais l'aimer, je l'aime. Et depuis que je me suis marié, je sais ce que ça veut dire, aimer par choix. Tu choisis d'aimer quand même. Il y a des choses qui viennent naturellement, mais il y a des choses, tu fais le choix d'aimer. Et heureusement que l'amour dans la parole de Dieu n'est pas juste un sentiment qui vient et puis ça te remplit et puis ah oh, j'aime. C'est pas que ça. C'est des choix de faire sacrifice, tu vois. Je vais le chercher à la gare, ok, tac. C'est un choix, tu vois. Quand Samuel il partait, il était pas là. Oh, je les aime. Je fais ce choix de les aimer. Et je crois que dans l'aspiration à Dieu, il y a clairement une part que l'Esprit fait naître en nous, hein, n'est-ce pas? Il y a clairement une part qui ne vient pas de nous, et ça j'en suis convaincu. Et les prières de Paul le montrent. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça montre que quelque chose qui naît en nous. Il y a aussi une part de choix. Et c'est ça que je veux travailler avec vous pendant ce week-end. C'est vous avez compris que vous pouvez choisir de vivre pour la gloire de Dieu ou pas. C'est un choix que le chrétien fait. Dieu vous appelle à le faire, mais vous pouvez faire parfois je le ferai. Mais il y a ce choix personnel de dire maintenant je décide de le faire. Donc, mais en tout cas, merci pour cette notion d'aspiration qui rejoint effectivement cette idée de comment être passionné pour la gloire de Dieu, que Dieu fasse naître en nous. Donc je pense que ça nous pousse à la prière et à la foi, comme vous l'avez dit. Ce groupe, une réflexion. Donc rester en mode action en fait, d'accord. D'accord. La flamme pour Dieu à travers le servir. En fait, ça, on peut ouvrir à la notion de service. C'est-à-dire que plus tu sers, plus tu restes en action pour Dieu et ça te permet de. D'accord, ok, très bien. Ben c'est vrai que la perspective de l'évangélisation c'est encourageant. Je compléterai en disant que il faut toujours savoir pourquoi je vais évangéliser. C'est-à-dire que je crois vraiment absolument que évangéliser ça te permet de rester passionné, mais il faut toujours savoir pourquoi. Je pense que parfois si tu vas juste en mode robot comme il dirait, parfois tu peux perdre. À un moment tu te dis mais pourquoi je le fais? Mais si tu y vas toujours en perspective, je sais pourquoi j'y vais, ça te permet de. Merci. groupe ici.
Donc on peut diviser en quatre parties pour nous. Donc,
peut-être juste une idée. Alors quatre parties avec huit sous-parties chacune. Une ou deux idées, ouais. Allez, deux idées maximum.
Donc là, il y a la parole de Dieu.
Bien sûr.
Dans cette passion et compréhension, cet amour pour
ouais.
Donc c'est le Seigneur, sa parole, sa vie en nous. Il y a aussi à travers les autres, les témoignages des frères et des sœurs, s'inspirer des vies des gens qui
oui.
ont eu la passion et la joie
oui.
pour Dieu. Et aussi de se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc faire cette liste de ce qu'il a fait, qui nous donne aussi cette...
La reconnaissance. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est un axe crucial, c'est savoir voir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dira, je n'ai voulu savoir parmi vous Jésus-Christ que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, parce qu'il sait qu'en prêchant Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui s'est donné, Jésus-Christ qui s'est dépouillé, ça va faire naître votre passion. On va dire, quoi, Jésus a fait ça pour moi? Waouh! Et vous rappelez de ce que Dieu a fait pour vous régulièrement. Souviens-toi de Jésus-Christ, il dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que rien que te rappeler de Jésus, ça te motive, ça te passionne, ça te renouvelle. Donc ça c'est... Et juste avant, vous avez dit la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. Ça insuffle quelque chose en vous. Ça communique quelque chose quand on approche la parole de Dieu. Merci. Le groupe derrière.
On va
pas
reprendre ce qui a déjà été dit.
Oui. Donc, une idée qui n'a pas été dite.
La prière.
Ah oui. Ah ouais.
On le voit à l'œuvre aussi dans la
ouais.
prière, mais aussi la joie de l'Église, parce que bah, on prie les uns pour les autres, mais aussi l'édification mutuelle, qui nous rend mal aussi,
Super.
Les enseignements dans les
cours. Très bien, très bien, très bien. Merci. Non, super, super. La prière, c'est quelque chose de tellement mystérieux dans la vie chrétienne. Hein. Mais il paraît que ça a le pouvoir de déplacer des montagnes. Ça a le pouvoir de... Enfin, en tout cas, ça ouvre des portes pour des mouvements de fous. Hein, dans... voilà, merci beaucoup pour la prière, ça c'est un très beau rappel. Le dernier groupe.
Nous, c'était un peu comme devant, c'était la reconnaissance.
Oui.
C'était de savoir qu'en fait, on avait un Dieu qui n'était pas lointain, mais qui était proche de nous. Et de savoir que c'est Dieu tout-puissant et qui s'intéresse à nous, qui voilà, nous écoute, ça nous écoute. Et de savoir comme il dit ce qu'a fait Christ.
Ouais.
On ne prend pas tout, mais.
On le reçoit, quoi. Amen. Amen. Merci pour vos partages, vos échanges. On voit qu'on a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à renouveler notre passion pour Dieu et pour l'Église. Mettons-les en pratique. Prenons le temps de développer des disciplines qui vont nous permettre de mettre ça en pratique. La reconnaissance. Les gens disent, quand vous commencez pour vos prières, prenez toujours le temps de commencer par la louange. Voilà. Reconnaissance, la prière. Donc beaucoup de choses vont vous permettre d'aller de l'avant et de vraiment vivre pour sa gloire. Et cette mission, c'est la mission que le Seigneur nous donne pour toute notre vie. Donc c'est la mission de l'Église de Saint-Maur pour cette année. C'est Seigneur, qu'est-ce qui va nous permettre de te glorifier encore plus? Qu'est-ce qui va nous permettre de maintenir notre passion pour toi tout au long de l'année? Qu'est-ce qui va nous permettre d'aimer notre prochain, notre frère, notre sœur, toujours plus? Et encore une fois, ce n'est pas une option, c'est un appel premier. C'est vraiment notre premier appel. Et ensemble, vous êtes un corps, nous sommes un corps, qui nous aidons mutuellement à vivre cet objectif. Et je vous encourage de ce fait à vraiment vous intéresser les uns aux autres, à prier les uns pour les autres, vous intéresser à ce que les autres vivent dans la semaine, comment s'est passé ton travail, comment s'est passé tes études. Parce que c'est votre défi, mais vous êtes un corps où vous unissez mutuellement, vous vous articulez les uns avec les autres pour vivre cette mission ensemble, mais aussi pour vivre, que l'autre puisse vivre sa mission dans son individualité et là où il est dans son travail. L'Église sera encouragée. Ce que je dis toujours aux gens de l'Église de Lagny, je leur dis, l'Église de Lagny, elle ne se manifeste pas que le dimanche matin et le samedi après-midi. Je dis à chaque fois qu'il y a un membre de l'Église de Lagny qui, dans la semaine, va à son travail, c'est l'Église de Lagny qui arrive dans ce travail-là. C'est l'Église de Lagny qui va aussi dans ces études-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a fait un culte, on avec les pasteurs, on a voulu prier pour l'Église en disant, on vous envoie là où vous êtes. Parce que quand tu vas dans ton travail, quand tu vas à la BNP, quand tu vas dans cette boîte d'informatique, quand tu fais du code développement, c'est l'Église de Saint-Maur qui vient briller là où elle est. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est d'édifier Denis, d'édifier Joël, d'édifier Clément, pour qu'ils puissent être ces missions, ces personnes qui brillent et qui aiment. Donc l'objectif est là, mais l'Église est là pour vous soutenir dans cet objectif. Et ensemble, comme un corps bien coordonné, eh ben on conquiert tous ces royaumes. Je vais prier pour qu'on puisse renouveler notre consécration à Dieu, d'accord ? Comme vous l'avez compris, c'est une décision de cœur. C'est une première, dire merci Seigneur pour Jésus-Christ et pour la magnificence de son sacrifice. Merci Seigneur pour qui il est. Je reçois et je suis. Et je vais prier pour ça. Peut-être que certains là se disent, oui, j'ai envie de renouveler ma consécration à Jésus. J'ai envie de renouveler mon amour pour l'Église. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. N'attendez pas de rentrer à la maison. Maintenant, là, ensemble, vous pouvez le faire. Et vous êtes appelés à le faire si ce n'est pas absolument fait dans votre cœur. Donc, je vous propose vraiment de prendre ce temps maintenant et je vais prier pour tous ceux là qui dès maintenant veulent dire, voilà, Seigneur, je veux vraiment renouveler ma consécration pour toi, je veux vivre pour ta gloire. Prenez cette décision cet après-midi dans votre cœur et je vais prier tout de suite. D'accord? Seigneur Jésus, on prie, on proclame que nous vivons pour toi. Parce que tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Nous vivons pour ta gloire. Jésus-Christ s'est donné pour que nous puissions recevoir tout ce qui est nécessaire pour vivre pour la gloire de Dieu. Tu nous as tout donné, notre Dieu, jusqu'à la vie de ton Fils. Et nous voulons recevoir toutes tes grâces, la puissance de l'Esprit, la communion des frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous édifie dans la vérité. Et je te prie pour chaque personne qui, cet après-midi, est prête à décider de te suivre absolument dans tous les domaines de sa vie et de faire de toute sa vie un sujet de gloire pour toi. Je te prie pour chaque personne qui cet après-midi dit « Oui, je veux suivre Jésus. » Absolument, dans tous les domaines de ma vie, à chaque instant, que ce soit au travail, dans la famille, dans l'Église. Je veux que Christ soit mon premier objectif. Je veux aimer mon frère et en faire un objectif. De tout puissant, je te prie d'encourager chaque frère, chaque sœur ici et de leur montrer qu'ils font le bon choix en décidant de suivre et de marcher pour toi, de suivre et de marcher et d'aimer leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins, leurs voisines. Nous comptons sur ta grâce. Je te prie encore pour l'Église de Saint-Maur, que tu continues à la bénir dans son ministère, dans sa mission d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain, dans sa mission d'être une lumière pour la gloire de Dieu, où qu'il soit, que ce soit en communauté ou individuellement dans la semaine. Je te prie que tu sois à leur côté et qu'ils voient encore la puissance de ton nom se manifester dans leur quotidien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.